monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 8 octobre 2018. L'opposant camerounais Maurice Kamto revendique la victoire à la présidentielle de dimanche. En Côte d'Ivoire, Henri Conan-Bédier accuse le pouvoir de comploter pour faire disparaître le PDCI. L'armée égyptienne affirme avoir tué 52 djihadistes dans des opérations antiterroristes. Pékin accuse de corruption l'ex-patron chinois d'Interpol. Les scientifiques du GIEC alertent sur la menace de réchauffement climatique au-delà d'1,5 degré Celsius dès 2030. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. L'opposant camerounais Maurice Kamto, l'un des principaux candidats à la présidentielle de dimanche, a revendiqué sa victoire face au président sortant Paul Biya. Notre envoyé spécial à Yaoundé, Bagassi Koura, nous en dit plus.
Vers 15h30, dans une déclaration en français et en anglais à la presse, Maurice Kamto s'est simplement déclaré vainqueur à la présidentielle de dimanche. « J'ai reçu mission de tirer le pénalty, je l'ai tiré, je l'ai marqué », a déclaré l'ancien ministre de la Justice. « J'ai reçu du peuple un mandat clair que j'entends défendre jusqu'au bout ». Cette déclaration intervient presque 24 heures après la mise en garde sévère du ministre de l'administration territoriale, Paul Attagandji. Dimanche soir, après la fermeture des bureaux de vote, il a invité les acteurs politiques au respect scrupuleux des lois du pays, des lois qui stipulent notamment que seul le Conseil constitutionnel est habilité à publier les résultats du scrutin. À peine la déclaration de Maurice Kamto terminée, le ministre de la Communication, Bakary Tchiroma, a réagi en disant, je cite, « Les déclarations de Maurice Kamto ne valent rien, ils affronteront la rigueur de la loi ». Le secrétaire adjoint du RDPC, le parti de Paul Biya, Grégoire Owona, a aussi réagi, soulignant que Kamto a passé outre les lois et règlements du Cameroun. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Plusieurs Congolais ont été tués en Angola en marge d'une opération visant à expulser les étrangers en situation irrégulière. La télévision publique angolaise parle de 11 morts lors d'affrontements à Lukapa. Des chercheurs d'or congolais ont commencé mercredi à attaquer les ressortissants et la police en réponse à l'opération. L'intervention de la police a fait 2 morts. Le lendemain, 8 Congolais et un policier ont été tués. À 5 jours des élections locales en Côte d'Ivoire, le PDCI a accusé le pouvoir de comploter pour le faire disparaître par la voix de son président Henri Conan-Bédier lors d'une réunion du bureau politique à Daoukro. Monsieur Bédier a dénoncé le harcèlement judiciaire orchestré par le régime pour tenter de bloquer le fonctionnement du PDCI depuis que ce parti s'est retiré de l'alliance avec le parti présidentiel. Le divorce entre les deux formations a été officialisé début août après plusieurs mois de tensions. La force anti-djihadiste du G5 Sahel a programmé 3 opérations ces prochaines semaines, a annoncé la ministre française des armées Florence Parly en visite de 2 jours au Tchad. L'équipement de la force conjointe est encore très insuffisant, mais la force n'est pas inactive. Elle a mené 6 opérations depuis le lancement et 3 sont programmées sur chacun des 3 fuseaux, a dit Madame Parly à son arrivée à N'Djamena, où elle doit rencontrer le président Idriss Déby Itno et des soldats de la force Barkhane. L'armée égyptienne affirme avoir tué 52 djihadistes présumés dans des opérations antiterroristes contre le groupe État islamique. Des précisions avec Ekia Badou.
Dans un communiqué publié lundi, l'armée annonce l'élimination de 52 extrémistes au cours de 2 opérations menées par les forces de sécurité dans la région du Sinaï. 3 militaires ont également perdu la vie dans ces opérations, selon la même source. Le 9 février dernier, les forces armées égyptiennes ont lancé l'opération Sinaï 2018 à la demande du président Abdel Fattah al-Sissi après une attaque attribuée à l'EI par les autorités et qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée de la péninsule. Depuis lors, plus de 350 djihadistes présumés et une 30aine de soldats sont morts dans les combats selon les autorités. Depuis la destitution par l'armée en 2013 du président islamiste élu Mohamed Morsi, des centaines de policiers, de soldats mais aussi de civils ont été tués dans des attaques djihadistes en Égypte.
Et le chef djihadiste égyptien Hicham el-Hachmawi a été arrêté dans l'est libyen à Derna, a annoncé le porte-parole des forces du maréchal Khalifa Haftar. Il est recherché en Égypte pour des actes de terrorisme. Son appartenance à Ansar Beit al-Maqdis et la tentative d'assassinat de l'ancien ministre égyptien de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, en 2013, a indiqué le colonel libyen Ahmad al-Mismari.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ex-patron chinois d'Interpol est accusé de corruption, a annoncé Pékin quelques heures après la démission du chef de l'organisation policière mondiale. Le point avec Nani Talani.
C'est dans un communiqué que le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé dans la nuit que M. Meng, ex-président d'Interpol et également vice-ministre de la Sécurité publique chinoise, a accepté des pots de vin et est soupçonné d'avoir violé la loi. Le texte ne fournit aucune précision sur ces accusations. Il ne précise pas non plus si les accusations relèvent des fonctions ministérielles de M. Meng ou bien de celles qu'il exerçait à Interpol. Il n'est pas non plus précisé s'il a ou non été placé en détention. Quelques heures plus tard, Interpol annonçait la démission avec effet immédiat de son président, âgé de 64 ans, et porté disparu depuis plus de 10 jours après avoir regagné la Chine. Son épouse, Grace Meng, qui avait signalé sa disparition inquiétante à la police française jeudi, pense plutôt que son mari est en danger. Monsieur Meng, nommé fin 2016 à la tête d'Interpol, est loin d'être le premier haut responsable chinois à tomber sous le coup de la campagne anticorruption lancée par le président Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir fin 2012. Populaire dans l'opinion publique, cette campagne qui a sanctionné plus de 1,5 million de cadres est également soupçonnée de servir à éliminer des opposants internes à la ligne du président chinois.
Moscou a nié avoir voulu pirater l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, assurant que l'expulsion de 4 hommes présentés comme des espions russes par les Pays-Bas relevait d'un malentendu et ne se fondait sur aucune preuve. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré qu'il n'y avait rien de secret dans le voyage des spécialistes aux Pays-Bas. L'ambassadeur néerlandais à Moscou est convoqué au ministère russe des Affaires étrangères pour évoquer la campagne de désinformation organisée à la haie, selon M. Lavrov. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Beijing, deuxième étape de sa tournée asiatique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les États-Unis ont de graves préoccupations concernant les actions de la Chine, a fait savoir Mike Pompeo lors d'une réunion avec son homologue chinois Wang Yi. « Nous avons un désaccord fondamental », a dit le chef de la diplomatie américaine au ministre chinois des Affaires étrangères. Ce dernier a, de son côté, accusé les États-Unis de provoquer une escalade des tensions commerciales avec la Chine. Par ailleurs, Washington traite Taïwan d'une manière qui nuit aux intérêts fondamentaux de la Chine, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères. Les deux hommes ont parlé de la nécessité d'une plus grande coopération. Nous pensons que la Chine et les États-Unis devraient s'en tenir à la voie correcte de coopération, celle gagnant-gagnant, plutôt que d'être embourbés dans une mauvaise voie pleine de conflits et d'affrontements, a souligné M. Wang. Tous deux ont réaffirmé leur volonté partagée de parvenir à la dénucléarisation totale et vérifiée de la Corée du Nord. Mike Pompeo a annoncé, après une rencontre hier avec Kim Jong-un, que des inspecteurs internationaux seraient autorisés à visiter le site d'essais nucléaires démantelé par Pyongyang. La rencontre entre les deux diplomates survient quelques jours après que le vice-président américain Mike Pence a accusé la Chine d'agression militaire, vol commercial et violation des droits de l'homme.
La Cour suprême du Pakistan a examiné le recours et a différé le jugement d'Asia Bibi, une chrétienne condamnée à mort pour blasphème. Cette mère de 5 enfants a été condamnée en 2010 à la peine capitale suite à une dispute avec une musulmane au sujet d'un verre d'eau. Une 40aine de personnes sont dans les couloirs de la mort ou servent une peine de prison à perpétuité pour blasphème au Pakistan, selon le rapport de la Commission américaine sur la liberté de religion dans le monde. Le monde doit engager des transformations rapides et sans précédent s'il veut limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, une côte d'alerte qui pourrait être atteinte dès 2030, préviennent les climatologues de l'ONU. Dans un rapport publié ce lundi, les scientifiques du GIEC décrivent la menace d'emballement au-delà d'1,5 degré. Cela se traduirait notamment par des canicules, extinction d'espèces, déstabilisation des calottes polaire et montée des océans. C'est de l'urgence extrême, a réagi le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Peter Italas, affirmant que nous nous dirigeons plutôt vers 3 à 5 degrés de réchauffement en ce moment. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Totalani.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement envisage d'adopter un budget de 4,3 milliards de dollars pour l'année 2019. Il est en hausse d'environ 83,93% par rapport à celui de l'année 2018 qui était de 2,8 milliards de dollars. Alors que le pays sort à peine d'une crise économique due à la chute des prix du pétrole et exacerbée par une dette colossale de plus de 117% du produit intérieur brut, selon le FMI, les autorités semblent plus optimistes. Elles annoncent une croissance économique de 2% en 2018 et 3,7% en 2019, alors que le FMI table sur une croissance de 0,7% pour le pays en 2018 et de 4,6% en 2019. Au Zimbabwe, le gouvernement a décidé d'augmenter la taxation des transactions via le mobile money, le moyen de paiement le plus répandu actuellement dans le pays. Avant, il était question de prélever 0,05 dollars zimbabwéens par opération, quel que soit le montant. Désormais, une taxe de 2% sera prélevée sur la valeur de chaque transaction. Le gouvernement espère ainsi mobiliser plus de ressources financières et combler au maximum son déficit budgétaire. Et enfin, l'Éthiopie envisage la construction de 3 nouvelles zones industrielles pour l'année fiscale 2018-2019 dans les villes d'Echa, Semera et Asosa. Ces projets visent à faciliter la mise en place du programme national de transformation de l'économie éthiopienne, essentiellement agraire, en une économie industrialisée d'ici 2025.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédrago. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par les éliminatoires de la CAN 2019 avec 5 changements dans la liste du Cameroun.
Confronté à plusieurs blessures, désistement et forfait avec Vincent Aboubakar, Clinton Djie, Stéphane Baouken, Félix Eboué-Eboué et Dimitri Oberlin, le sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf, a été contraint de revoir ses plans dans sa liste de joueurs convoqués pour la double confrontation face au Malawi les 12 et 16 octobre. 5 éléments ont ainsi été appelés en renfort, le défenseur Joachim Dawa Tchakonté, le milieu de terrain Petrus Boumal et les attaquants Jacques Zoua, Fabrice Olinga et Joël Tagueux Tadjo.
Au Sénégal, Pape Djibril remplace Lamine Gassama.
Alors qu'il avait convoqué Lamine Gassama pour la double confrontation contre le Soudan, le sélectionneur du Sénégal va devoir se passer du latéral droit de Göztepe qui s'est blessé vendredi dernier dans le championnat turc. Pour le remplacer, Pape Djibril Diaw, 23 ans, a été appelé en renfort. Cadre de la sélection des moins de 23 ans durant la CAN de la catégorie en 2015, le défenseur central du Corona Kielce en Pologne va honorer sa toute première convocation en A.
C'est fini entre le Oroya AC et Victor Zvunka.
Au terme de près de 3 ans de collaboration commune, le club guinéen Oroya et Victor Zvunka viennent de se séparer. D'après la presse locale, le technicien français en poste depuis décembre 2015 n'est pas parvenu à s'entendre avec ses dirigeants au sujet d'une prolongation de son contrat. Même s'il a été très régulièrement critiqué, le technicien de 66 ans aura marqué l'histoire du club de Matam en décrochant 3 titres de champion de Guinée et 2 coupes, la dernière ayant été remportée vendredi dernier contre Wakria 1-0. Mvuka aura aussi conduit l'équipe en phase de groupe de la Coupe CAF la saison passée et en quart de finale de la Ligue des Champions cette année, une première.
On termine par du rugby. Le championnat d'Afrique à 7 se jouera en Tunisie.
La ville de Monastir abritera les 13 et 14 octobre prochains l'édition 2018 du championnat d'Afrique de rugby à 7. 12 pays y sont attendus. Le tirage au sort des groupes de la compétition a été effectué. Dans le groupe A, on retrouve le Kenya, le Maroc et le Botswana. Le groupe B renferme l'Ouganda, le Sénégal et le Ghana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le prix du litre de carburant revu à la hausse depuis le 30 septembre est à la base de perturbations observées dans le transport en commun à Kinshasa. Certains chauffeurs de taxi ont par conséquent revu également à la hausse le prix de la course, mais ils ne sont pas forcément blâmés par leurs clients, selon Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Une semaine après l'annonce de la révision du prix du litre du carburant à la pompe, le secteur du transport en commun reste divisé quant aux conséquences de cette décision. Je viens par votre radio pour expliquer cette énième révision à la hausse du prix du litre du carburant à la pompe. Le ministre d'État à l'économie, Joseph Kapika, s'appuie sur la tendance du marché mondial pour expliquer cette décision gouvernementale.
Il y a surchauffe sur le marché mondial. À l'augmentation du prix du baril, nous avons les mains liées. Ou bien nous réajustons et il y a du carburant dans les pompes partout, la vie continue. On ne réajuste pas, tout s'arrête parce qu'il n'y a pas de carburant. Il faut opérer les choix entre les deux conséquences.
Selon la nouvelle structure des prix, le litre de l'essence est passé de 1980 à 2100 francs congolais et celle du gasoil de 1970 à 2100 francs congolais, une deuxième augmentation depuis avril dernier. Si les chauffeurs taxis sont divisés au sujet de l'augmentation ou non du prix de la course, tous sont au moins unanimes sur le fait qu'ils sont les premières victimes de cette décision qui perturbe leur travail.
La taximène, vraiment, ils ont un impact de mon côté. Puisque, au moins, en matière de transport,
pour nous, les taximènes, il n'y a aucun impact. On ne peut pas revoir à la hausse les prix du transport parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Il faut attendre au moins 3 majorations. Depuis un moment, on se retrouve confronté à certains problèmes. Il faut réajuster la tarification de la course comme il y a eu majoration du prix du carburant. Savez-vous qu'en Angola, il n'y a pas ces problèmes? Nous sommes les ennemis du gouvernement. Pourquoi c'est toujours les chauffeurs qui sont visés? Nous devons aussi majorer les prix des courses, sinon on ne va pas se retrouver.
Au niveau gouvernemental, on reste catégorique. La révision du prix de la course en taxi et taxi-bus n'est pas à l'ordre du jour, car le prix du litre n'a augmenté que de 30 francs congolais. Mais sur le terrain, c'est à la tête du client et en fonction de l'affluence à certaines heures de pointe que les prix des courses sont fixés. Certains clients interrogés par VOA Afrique, à défaut de se plaindre, comprennent l'attitude des taximens.
Les chauffeurs ont besoin de raison. Parce que
les chauffeurs qui souhaitent augmenter les prix des courses ont raison. Ces conducteurs ne sont pas fautifs. C'est eux qui souffrent. 1 litre et 2100 francs congolais. À partir d'ici jusqu'à magasin, 1 litre et demi de carburant est consommé. Ça fait pratiquement 4100 francs congolais. C'est l'hôtel des villes qui est fautif.
Comme moi, par exemple, par jour, dans mes calculs, j'ai dépense plus ou moins 3000 francs pour transport. Mais maintenant, je suis obligé de majorer le prix, même à 4000 francs. Et en plus aussi, les chauffeurs aussi les font expressement. Donc, moi, pour moi, le prix, lorsque ça s'augmente, soit ça se rabaisse, je peux encore conclure que c'est pas vraiment par rapport au carburant. C'est aussi les chauffeurs. Ils font ça expressement.
Le ministère des Transports de la ville de Kinshasa a promis de prendre des dispositions pour renforcer les mesures de contrôle sur le terrain avant que la situation ne dégénère. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Autre produit dont le prix est revu à la hausse, cette fois-ci au Tchad, où le pain coûte deux fois plus cher maintenant dans certains quartiers périphériques de N'Djamena. Depuis une semaine, le prix de la baguette a en effet augmenté de 25 à 50 francs CFA, une augmentation qui serait liée au manque d'énergie, à la hausse du prix de la farine de blé, ainsi que d'autres matières premières. Notre correspondant André Kodmadjingar nous en dit plus.
Sous d'autres cieux, l'augmentation du prix des denrées de première nécessité telles que le pain a fait bouger le pouvoir, mais au Tchad, il n'en est rien. Initialement vendue à 100 francs CFA, une baguette de pain se vend aujourd'hui entre 125 à 150 francs CFA alors que le prix sorti de la boulangerie fixé par l'État est de 85 francs CFA. Les consommateurs déplorent cette hausse du prix du pain.
Je suis venu avec 300 à la boutique croyant avoir 3 pains et à ma grande surprise, on me dit que le pain c'est à 125.
Je trouve cette augmentation anormale étant donné que nous traversons une période de crise. Il y a eu un abattement de salaire, donc c'est complètement paradoxal.
Maintenant, il n'y a pas l'argent, mais pourquoi c'est augmenté?
Nous n'avons pas augmenté le prix du pain, refutent les responsables des boulangeries de la ville de N'Djamena. Pour eux, c'est la mauvaise foi de certains grossistes et revendeurs qui veulent s'enrichir sous le dos des paisibles citoyens qui se livrent à cette spéculation. Mahamat Amat est le gérant de la boulangerie Iba.
Nous, on le vend sorti four, en gros, à 85 francs et à la cabane à 100 francs. Donc, il n'est pas à notre niveau d'aller voir qui vend à 125 et qui vend à 150. Vraiment, il n'y a aucune boulangerie qui n'a augmenté 5 francs sur le prix de vente en gros.
Les grossistes et revendeurs du pain mis en cause confirment que ce sont les boulangers eux-mêmes qui ont augmenté le prix à cause de la flambée du prix de la matière première et du manque d'énergie.
Les boulangers ont augmenté le prix du pain à cause de l'augmentation du prix de la farine et du manque d'électricité, semble-t-il. Maintenant, nous prenons le pain à la boulangerie à 90 francs CFA pour aller revendre au quartier à 125 francs CFA. Mais il y a toujours mes ventes parce que les consommateurs trouvent que c'est trop cher.
Nous, le vendeur, nous demandons juste au boulanger là, de diminuer le prix un peu. Ça va aussi nous permettre de soulager un peu aussi le client qui vit la crise.
Un autre responsable de la boulangerie qui requiert l'anonymat tente d'expliquer à VOA Afrique les raisons de l'augmentation du prix du pain dans les quartiers.
Le problème en est clientèle.
C'est une question de concurrence entre les boulangeries de la place. Pour gagner la clientèle, nous avons cassé le prix du pain à la sortie du four qui est de 85 à 80 francs. Mais avec cette crise, nous sommes tombés en faillite et donc on a simplement décidé de vendre le pain à 85 francs CFA comme prévu à la sortie du four. Raison pour laquelle nos anciens clients pensent que nous avons augmenté le prix, mais non.
Le responsable de la direction technique du commerce, ceux de la direction de la concurrence du prix et même du commerce intérieur contacté par VOA Afrique se rejettent la responsabilité. Ils trouvent cette question sensible et attendent l'autorisation de leur hiérarchie avant de se prononcer. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
On revient sur l'actualité électorale en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, où octobre est le mois des primaires pour les partis politiques appelés à désigner leurs candidats à la présidentielle de février 2019. Le parti d'opposition PDP a choisi l'ancien vice-président Atiku Abubakar pour affronter le président sortant, Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession. Voici un reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique à Abuja.
Porté par plus de 1500 supporters, l'ancien vice-président Atiku Abubakar est donc devenu le candidat officiel du PDP dans la course à la présidence du pays le plus peuplé d'Afrique lors de son congrès dans un grand stade dans la ville pétrolifère de Port Harcourt dans le sud du Nigeria. Un candidat ému après son élection qui verra rassembler autour de lui non seulement son parti, sa famille, mais il veut aller au-delà, se tourner désormais vers tous les Nigériens comme il a indiqué.
Nous observons aujourd'hui un événement spécial et donc nous avons une grande opportunité de redonner le pouvoir au PDP dans ce pays. L'histoire nous oblige tous à ce moment précis pour rassurer que le pouvoir reviendra effectivement au PDP.
Pour ce congrès, les partisans du PDP devaient gagner le pari du rassemblement après des désaccords qui ont secoué ces grands partis d'opposition au Nigeria ces dernières années. Réaction de certains délégués au congrès qui a permis l'élection du candidat Atiku Abubakar.
C'est bon, Atiku est le vainqueur parce que dans mon village, il y a un adage qui dit que la grossesse ne restera pas cachée, elle doit accoucher d'un bébé. C'est une grande victoire, même si beaucoup d'autres États étaient venus avec leurs candidats. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la victoire à Atiku. Même si nous venons de Nassarawa, nous devons tous nous rassembler autour de lui et même les autres candidats pour soutenir Atiku pour 2019.
Homme d'affaires âgé de 72 ans, deuxième vice-président élu du Nigeria de 1999 à 2007 sur la plateforme du Parti démocratique du peuple, PDP, aux côtés du président Olusegun Obasanjo. Il a fait défection à nouveau en mai dernier au PDP, où il a décroché dimanche le ticket pour affronter le président sortant Buhari à l'élection présidentielle de 2019. Le président Muhammadu Buhari, qui a été lui aussi confirmé candidat du parti au pouvoir lors d'un congrès tenu également durant le week-end à Abuja, la capitale fédérale. Le président candidat a accepté sa désignation comme candidat du parti au pouvoir pour un second mandat.
J'accepte cet honneur comme un hommage et une marque de confiance pour assumer la responsabilité au moment où nous nous rassemblons tous pour continuer le bon travail du gouvernement APC. Et cela jusqu'en 2023 et au-delà.
Atiku Abubakar aborde ainsi la dernière ligne droite dans sa course vers la présidence du Nigeria, celle où désormais ce sont les Nigériens inscrits qui désigneront le vainqueur de la présidentielle de février 2019 prochain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Togo, les organisations de défense et de promotion des droits de la femme, regroupées au sein du collectif Non c'est Non, ont tenu un sit-in devant le ministère de l'Action sociale à Lomé. Le collectif veut dénoncer les cas de violences sexuelles dont les Togolaises sont victimes et la publication de photos montrant la nudité des femmes et des jeunes filles sur les réseaux sociaux. Le viol, les violences sexuelles et le revenge porn, des fléaux dont nous parle notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Nous sommes des femmes et il y a des choses que nous n'acceptons pas.
Il y a environ 3 semaines, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant une tentative de viol a suscité l'émoi au Togo. Il s'agit d'une première image d'une longue série montrant la nudité des jeunes filles togolaises dans des situations peu recommandables. Le Togo se voit ainsi confronté à une nouvelle forme de violence sexuelle. Florence Potisson, porte-parole du collectif Non c'est Non, un regroupement d'associations engagées contre le viol.
La question du viol a toujours été abordée effectivement au Togo, mais aujourd'hui nous remarquons une recrudescence de ce phénomène avec un autre volet, le revenge porn. Nous voyons nos sœurs, femmes comme nous, qui sont exposées. Le phénomène est de plus en plus récurrent parce qu'il est accentué avec les terminaux que nous avons, les réseaux sociaux que nous utilisons tous les jours et peut-être de la mauvaise façon.
Pour les Togolais interrogés sur la question, ils réclament justice pour les victimes.
Il est temps que les responsables soient trouvés et véritablement punis par la loi afin d'éviter aux victimes de souffrir doublement de l'acte qui leur est arrivé. Non seulement la vie de ces victimes sont détruites d'un point de vue psychologique, mais le fait de republier ces images sur les réseaux sociaux ne permet pas à ces victimes de dépasser cette situation-là.
Il y a certaines vidéos, certaines images qui vilipendent la femme. Donc on aimerait que les autorités puissent s'en charger et que le problème soit réglé le plus vite possible. Parce que du moment où ça nuit aux droits de l'être humain, c'est plus que profond.
Nous sommes des femmes et il y a des choses que nous n'acceptons pas. Pourquoi ces images passent et personne ne réagit au Togo? Que l'État togolais réagisse pour qu'on arrête ces personnes qui vilipendent la femme.
20% des femmes togolaises ont eu à subir des violences sexuelles, y compris l'inceste, la pédophilie et le viol. Dénoncer le viol pour obtenir justice n'est pas encore dans les habitudes, relève Michel Agué, secrétaire général du groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement, GF2D.
Le viol n'est pas dénoncé parce que les victimes ont souvent peur, parce qu'elles sont stigmatisées. Déjà, lorsque la première vidéo est sortie, les réactions sont mitigées. Les gens disent que c'est parce que la fille, elle a voulu avoir la vie facile, c'est parce qu'elle a provoqué, c'est parce qu'elle a fait ci. Et au-delà de cette vidéo-là, celles qui ne sont pas mises sur les réseaux sociaux, on voit des cas où on dit que c'est parce que la fille s'est mal habillée, c'est parce que la fille est de mœurs légères, c'est pourquoi elle a subi ce viol-là. Celles qui ont le courage de pouvoir dénoncer lorsqu'il s'agit par exemple d'intenter une action en justice, vous allez les voir après se rétracter. Nous avons également même des cas de viol sur des petites filles où les parents ils disent je préfère peut-être trouver un arrangement à l'amiable que d'aller à la justice.
Au Togo, le viol est un crime et reconnu comme tel par le code pénal. Il est puni d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Un grand merci à Joselle Morissin et à Jo Gill à la production. C'était Nathalie Marge avec vous. On reste en contact. À très bientôt. Au revoir.